Radio Primitive. La radio associative. Jurassic Park, le format court qui t'en dit long sur la préhistoire de tes artistes préférés.
Est-ce que je peux avoir un mot de votre part sur cette chanson parfaite qu'est Zombie?
Je ne sais pas si c'est dingue, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'elle soit si appréciée.
On ne savait pas parce que la maison de disques ne voulait pas qu'on la sorte. Elle était trop politique, c'était un sujet à controverse. Et on a dit, écoutez, on aime cette chanson, on trouve que c'est une très bonne chanson, c'est un nouveau son. À l'époque, on n'avait pas utilisé tant de distorsion que ça. On a vraiment forcé pour qu'ils la sortent, et c'est devenu ce truc énorme.
Quand je découvre les Cranberries en 94 avec Zombie, c'est le coup de foudre. Je me revois encore dans la cour de récré chanter « I en haise, en haise ». J'étais loin de me douter à ce moment-là que j'allais tomber dans un véritable rabbit hole, le groupe multipliant les singles, maxi, édition limitée contenant des versions live, alternatives et un nombre impressionnant de b-sides. Oui, les Cranberries nous ont gâtés, et c'est avec eux que j'ai compris le sens du mot « complétiste » avant même d'en connaître le terme. Et si quand j'avais 10 ans, ce bordel discographique avait des allures d'énigme à mes yeux, on peut remercier Internet d'avoir depuis lors mis de l'ordre dans ce qui me semblait être... On a peut-être du mal à se le représenter comme ça au premier abord quand on est témoin de leur sobriété scénique, mais au milieu des années 80, ce qui rapproche les frères Hogan et Fergal Lawler, c'est leur amour commun pour les survêtements, le breakdance, et Nick Kershaw. Mais ça,
c'était avant.
Avant que le son des Cure ne leur parvienne aux oreilles en 86, avec la sortie de la compilation Staring at the Sea. Les frères Hogan et leur ami Fergal délaissent progressivement leur apparat de breakdancer et se passionnent désormais pour des groupes comme Succès in the Benchies, The Smiths, New Order et Joy Division. En 88, le Xerix Studio ouvre ses portes à Limerick, ce qui profitera à bon nombre de groupes locaux, tels que The Do It With Mirrors, Up the Downstairs ou encore The Itchers, dont on reparlera. L'année suivante, en 89, le studio sort la compilation The Render Edge. Les trois amis sentent qu'il y a quelque chose à faire et ça tombe bien. Les parents de Fergal lui ont offert une batterie, Mike une basse, et Noël, malgré des réticences à jouer d'un instrument, une Gibson. Et moi je dis qu'on est bien. Maintenant que les présentations sont faites, laissez-moi vous parler du quatrième membre du groupe.
Dolores O'Riordan.
Pas si vite. En 89, un groupe fraîchement formé commence à se faire une petite notoriété sur la scène locale, The Itchers. La formation gagne l'été 89 un Ben Slam, sorte de tremplin, qui leur permettra d'enregistrer une première maquette et d'apparaître sur la fameuse compilation The Render Edge. Fin août, le groupe se produit au Granary Night Club en première partie d'Up the Downstairs, dont le chanteur aura d'ailleurs lui aussi un rôle dans l'histoire des Cranberries, puisqu'il deviendra quelque temps plus tard leur tourneur. À la fin du set, Niall Quinn, batteur et leader de The Itchers, est abordé par trois garçons qu'il connaît bien, puisqu'ils sont voisins. Ces trois garçons, vous l'aurez compris, sont Noël Hogan, Mike Hogan et Fergal Lawler. Ils viennent de former un groupe sans nom et sans chanteur. Niall Quinn leur propose de faire un essai derrière le micro et vous allez voir qu'à partir de là, on doit beaucoup à ce monsieur. Le rendez-vous pris, les quatre adolescents se retrouvent quelques semaines plus tard chez Fergal pour faire un essai sur New Dawn Fades de Joy Division et discuter du nom du groupe. Niall leur propose The Cranberries et plusieurs variantes, The Cranberry Doodles, The Cran Doodles et enfin The Cranberry Sauce, sur lequel ils se mettront tous d'accord pour deux raisons. La première est qu'ils estiment que The Cranberries correspondrait mieux à un groupe dont une fille tiendrait le mic. La seconde, pour le jeu de mots débile qu'augure The Cranberry Sauce, qui s'écrit donc The Cranberry Saw Us.
La canneberge nous a vus.
Mais qui, prononcé rapidement, devient The Cranberry Sauce.
La sauce de canneberge.
Confiture de maman, un doux parfum d'antan.
Pourquoi, me direz-vous? En hommage à la célèbre sauce qui accompagne le repas de Thanksgiving. Pourquoi, me direz-vous? Bah parce que c'était stupide et ringard, et que vu de la fenêtre d'un groupe d'ados de 16 ans, ben c'est cool. Pendant les deux mois qui suivent, le Quatuor répétera d'abord dans le garage des parents Hogan, puis s'installera dans la White Room du studio Xeric, avant de donner leur premier concert le 18 novembre au Flak Café de Limerick, premier d'une douzaine donnée entre novembre 89 et février 90. Leurs prestations scéniques se font rapidement remarquer, autant pour le jeu scénique de Niall qui cumule les aberrations visuelles, se pointant sur scène en uniforme scolaire et finit le pantalon sur les chevilles, mais également pour leurs chansons à l'humour décalé comme « My granny drowned in a fountain at Lourdes »,«
Ma grand-mère s'est noyée dans une fontaine à Lourdes »,«
Oh, saperlotte, mais t'ai-je entendu là ?»
ou encore un autre sur un Père Noël déviant qui se fait fermer sa boutique par la protection de l'enfance.
Vous verrez les beaux cadeaux que vous allez recevoir.
Mais outre leurs élucubrations qu'on mettra également sur le dos de leur jeune âge, le groupe sait aussi faire preuve de sérieux avec des titres comme « 69er »,« Lost Sally » ou encore une reprise d'Arlo Guthrie, « Coming into Los Angeles ». Le 7 janvier 90, alors que le groupe a à peine deux mois d'existence, ils enregistrent une démo de 4 titres au studio Xeric qui sera vendue 2,50 $ lors des concerts. Cette EP, intitulée Anything, est agrémentée d'un artwork fait main par Noël Hogan avec une faute d'orthographe volontaire sur le mot cranberry, histoire d'appuyer le trait ironique du groupe. Cette cassette est aujourd'hui devenue collector, vous vous en doutez bien, mais ça n'empêche qu'on s'en écoutera un extrait en fin d'épisode. Au bout de 4 mois au sein des Cranberry Sauce, Niall Quinn commence à saturer de cumuler deux groupes et sent qu'il doit faire un choix. Malgré qu'il soit davantage identifié comme un ingrédient de la sauce au canneberge que comme le batteur des Hitchers, ces derniers commencent à véritablement se faire un nom et gagnent un second concours début 90. Niall annonce sa décision de quitter le groupe dont il est le chanteur, mais en vrai gentleman, il ne laisse pas ses poteaux dans la mouise. Il sait qu'ils ont testé quelques chanteurs qui n'ont pas fait l'affaire et décide alors de jouer les entremetteurs. Il passe un coup de fil à une certaine Dolores, dont une amie lui a filé le numéro, en lui disant qu'il s'agissait d'une très bonne chanteuse. Une semaine plus tard, les garçons auditionnent Hélène. Dolores Riordan, alors âgée de 18 ans, qui sort de la voiture de son père dans son survêtement rose bonbon, son clavier sous le bras. Et là c'est marrant, car on a les deux versions de l'histoire. Du point de vue des garçons, leur première impression, qui n'est que visuelle rappelons-le, les laisse dubitatifs. Ils échangent même un regard qui en dit long avec Niall Quinn présent lors de cette rencontre. De son côté, Dolores fait fi de leurs premières impressions et sait qu'à la minute où elle ouvrira la bouche, les mâchoires se décrocheront. Elle entonne avec un naturel déconcertant une chanson de Sinead O'Connor tirée de l'album The Lion and the Cobra, et effectivement...
Il s'échappe orbite, roule dans l'assiette.
Les garçons comprennent rapidement qu'ils ont trouvé la perle. La suite, c'est Dolores qui va vous la raconter.
Okay, boys, let me hear your stuff.
J'ai dit ok les gars, faites-moi écouter ce que vous faites. Et ils ont commencé à jouer. Il y avait ce chanteur qui chantait des trucs complètement fous. Et il n'avait pas une voix terrible. On l'entendait mal de toute façon, du genre... Je me souviens avoir aimé l'idée que ces trois garçons composent leurs trucs. Et j'étais du genre difficile à convaincre. Mais j'ai aimé qu'ils soient inspirés par les Smiths, qu'ils jouent sur de vraies guitares, fassent de la vraie musique, et pas « Allez, on se trouve un clavier, une boîte à rythme et... » Vous savez, pour moi, c'est tordu. Mais j'ai pensé que ce groupe avait un vrai potentiel et de très bonnes bases sur lesquelles travailler, mais ce n'était qu'une base. Une base musicale. Ah, Dolores... Une semaine plus tard, le groupe commence les répétitions. La première chose que fait Dolores, c'est de changer les lyrics qu'elle trouve obscènes. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'étonne pas. Ainsi naît leur premier titre, Linger, tiré d'un instrumental que le groupe jouait déjà avec Niall Quinn, mais remanié par la nouvelle lead. Cette démo de Linger ainsi que trois autres titres proviennent de la démo Water Circles sortie en août 90. Elle est envoyée à plusieurs labels la même année et suscite l'intérêt de plusieurs maisons de disques, mais certainement pour l'aspect pratique, les Cranberry Sauce signent un contrat avec Pierce Gilmore chez Xeric Records. Et Pierce Gilmore, certainement motivé par l'appât du gain, fera faire aux jeunes membres du groupe un tas d'erreurs successives qui leur servira de leçon pour la suite. Très rapidement, un premier maxi intitulé Nothing Left At All est pressé à 300 exemplaires qui se vendent en quelques jours. Il s'agit du dernier à sortir sous le pseudo Cranberry Sauce. Début 91, le groupe décide enfin de raccourcir leur sobriquet à...
Les Cranberries.
Les quoi ?
Les Cranberries.
Les quoi ?
Les Cranberries.
Ah, les Cranberries. Nom de groupe parfait désormais puisqu'il y a une fille derrière le micro. Encouragés par une presse dithyrambique, ils retournent en studio très rapidement pour enregistrer des démos qu'ils envoient désormais...
Sur le sol,
irlandais.
Mais pas que. Encore une fois, ils font mouche au point même de refuser des propositions venant de Warner, Virgin, CBS, Rough Trade, EMI et Virgin pour finalement dire oui à Island Records avec qui ils signent pour 6 albums, tout en étant encore sous contrat avec Xeric Records. Pierce Gilmore, sentant certainement ses poulains lui échapper, leur met un coup de presse qui donnera naissance au premier maxi du groupe sous le pseudo The Cranberries, Uncertain. Et là, c'est l'échec. Le groupe était attendu au tournant. La presse musicale avait misé beaucoup d'espoir sur cette première sortie et Uncertain ne fait pas le job. Les critiques sont cinglantes et c'est un premier coup dur pour les membres du groupe. Le second, c'est que Pierce Gilmore tient absolument à ce que les Cranberries sortent leur premier album sur son label. Il les force à retourner en studio pour enregistrer et s'autoproclame directeur de toutes les opérations, laissant peu de place et de choix aux musiciens. Ils tiennent un mois dans cette configuration, enregistrent trois titres qui ne les passionnent pas et plantent Gilmore début 92. Le conflit d'intérêts qui durera tout de même 3 ans avant qu'une issue légale ne soit trouvée entraînera les membres du groupe et plus particulièrement Dolores dans une période de dépression et de paralysie artistique. Les Cranberries se retrouvent donc sans manager et sans plan B pendant quelques temps. Et c'est Geoff Travis de Rough Trade Records qui va les sortir du fossé. Il confie à Dolores qu'il sent que les gens réagissent à leurs chansons exactement comme ils l'ont fait aux chansons de Morrissey et c'est donc tout naturellement qu'il confie le groupe aux soins de Stephen Street qui a justement produit les albums des Smiths. Dreams, le premier véritable extrait de Everybody Else Is Doing It So Why Can't We, est enregistré à Windmill Studio, appelé couramment le U2 Studio. Il se classe rapidement dans le top 100, se vend à hauteur de 600 000 exemplaires et est certifié disque de platine au Royaume-Uni. La machine Cranberries était lancée, mais c'est quelques mois plus tard que le groupe fera son premier gros tube avec Linger, qui restera classé au Billboard en Amérique pendant 24 semaines. Noël Hogan dira d'ailleurs à propos de ces deux titres: ce n'est vraiment que depuis le décès de Dolores que j'ai développé une véritable appréciation pour des chansons comme Linger et Dreams. Ce n'était que des chansons dans la setlist pour nous. Les gens en étaient fous. Et quand je les écoute maintenant, je me rends compte à quel point elles sont formidables pour quelqu'un de si jeune. Ce que je n'ai jamais su apprécier jusqu'à il y a un an. Nous devons l'avoir joué 1 million de fois dans nos vies, et cela devient juste une partie d'un tout. Mais c'est différent maintenant. Nous sommes tellement chanceux d'avoir fait ça, d'avoir cet héritage. Dolores O'Riordan est décédée en janvier 2018. La même année, leur premier disque a été réédité dans une version augmentée, plus que complète, avec les rushs et des titres dont j'ai parlé dans cet épisode. Et nous pouvons dire merci à Noël, Mike et Fergal de continuer d'honorer la mémoire de la talentueuse Dolores. Avant de vous quitter, j'ai une dernière anecdote personnelle à vous raconter à propos de ce premier album.
Faut encore qu'il ramène sa fraise.
En 94, donc, je découvre The Cranberries avec Zombie. J'ai fait des pieds et des mains auprès de mes parents pour avoir l'album, et en novembre de la même année, le 4 pour ceux que ça intéresse, je fête mon anniversaire. Je fais une boum plus précisément. En ouvrant mes cadeaux, je découvre un album à la pochette sombre avec un titre à rallonge que j'ai du mal à déchiffrer. Even an yes is no in one why can't we? Par The Cranberries. Mes parents n'achetaient jamais neuf. J'avais donc l'habitude qu'ils tombent à côté. Genre, je leur demande des petits poneys et ils m'achètent un plateau de petits chevaux. Je lance donc cet ovni sur la platine et j'entends Aline, une camarade, qui me dit:
c'est quoi ça? C'est nul!
Non, c'est l'album des Cranberries.
Ce à quoi elle répondra, et je m'en souviendrai toute ma vie:
ben oui, mais c'est pas le vrai.
Going to play.
little is alright if it makes you kneel, just to make you kneel. But I never had the time. How's it going to bleed? How's it going to bleed? You are so unamusing. So unamusing. How's it going to bleed? How's it going to bleed? You are so unamusing.
Vous venez d'écouter l'épisode 7 de la saison 2 de Jurassic Park.
Mais c'est pas le vrai.
Il est dispo en replay sur le site off de Radio Primitive et sur toutes les applis de podcast. Prenez soin de vous.
Ben oui,